14h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Tout de suite, nous accueillons donc de façon plus, on va dire, officielle, notre invité santé du jour. C'est vous, professeur Michel Lejoyeux. Bonjour.
Bonjour et merci de cette invitation.
Vous êtes chef du service de psychiatrie d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez JC Lattès. Alors pour commencer, est-ce que c'est normal déjà à cette période de l'année d'avoir un petit coup de blues, on va dire, un coup de mou? C'est dû à quoi précisément chaque année en novembre? Comme ça, il y a cette lassitude qui s'installe un peu de façon générale.
Il y a vraiment deux tableaux qui sont complètement différents. Quand on est sorti ce matin avec un temps humide, froid, pas beaucoup de soleil, on n'a pas explosé de bonheur. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, pas particulièrement.
Il faisait nuit quand j'accompagnais ma fille à l'école, je crois.
Voilà, hein, donc vous étiez dans un état, vous disiez, ça tombe bien qu'on prévoit une émission sur la dépression saisonnière. Donc, l'émotion un peu désagréable, un peu négative, qui arrive en hiver. Alors que par contre, quand le printemps, qui ne va pas être si loin, hein, va arriver, on va avoir du soleil, on va être beaucoup plus exalté. Tout ça est strictement normal. Mm-hmm. Donc, que nos émotions changent, que notre niveau d'énergie change aussi un petit peu. Honnêtement, on est moins porté vers l'activité physique. Vous rêvez de décapotable, mais la décapotable, vous voyez, vous en servirez.
Ah ben là, ce n'est pas possible.
C'est pas possible, hein, pas tout de suite, la décapotable. Donc, tout ce qui est du champ de l'émotion qui fluctue est complètement normal. Mon métier de médecin, c'est de ne pas passer à côté de ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier ou les vraies dépressions saisonnières. Ah. Avec trois indices simples. Mm-hmm. Le premier, c'est la perte d'envie. Je me dis, même s'il faisait beau, j'aurais envie de rien faire. Ça, c'est un premier indice. Le deuxième indice, c'est la culpabilité. Mm-hmm. J'ai l'impression que je ne vaux rien. J'ai l'impression que je suis trop payé. Vous voyez, le jour où vous avez l'impression que...
Non, ça va.
Très bien. Très bien, donc détendez-vous, vous n'avez pas de dépression.
On est bien, Julia, tout va bien. Et le troisième point?
Le deuxième aussi, vous avez l'impression qu'on est trop gentil avec vous, que votre mari est trop sympa avec vous.
Non, c'est normal, quoi.
Donc continuez, vous n'êtes pas déprimé. Et le troisième point, c'est le ralentissement. Mm-hmm. C'est la fatigue de l'esprit et la fatigue du corps. Donc, quand on plus de l'émotion, on a ces trois critères-là.
Là, on est en dépression, c'est ça?
Culpabilité, ralentissement. Là, il faut demander un avis médical.
D'accord. On peut considérer que ce n'est plus de la tristesse.
Hein, on est très au-delà de la tristesse. On est face à une maladie qui va se traiter, éventuellement avec des médicaments. Rappelons-nous quand même que la présence d'une dépression maladie multiplie par 5 le risque de suicide. Mmh. Hein, donc, on est face à une maladie potentiellement mortelle.
Mais qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on est victime d'une dépression dans le cerveau? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, il y a plein de modifications, mais il n'y en a pas une très simple. Globalement, si vous faites une imagerie de cerveau de quelqu'un qui est déprimé et de quelqu'un qui va bien, vous ne voyez pas de différence.
D'accord.
On a des mini-différences autour des neuromédiateurs, de la sérotonine, de la dopamine. Mais mon métier reste formidable parce que l'explication biologique définitive de la dépression n'existe pas. Mmh. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a une association entre un mode de vie, des médicaments et une psychothérapie qui guérit toutes les dépressions. Donc, c'est vraiment un diagnostic qu'il ne faut pas rater.
Ah, vous êtes très optimiste. Toutes les dépressions.
Quasiment toutes les dépressions.
Et si on ne laisse pas traîner aussi, c'est ça qui est important,
non,
je crois.
Vaut mieux pas laisser traîner parce que c'est une souffrance, c'est une invalidité considérable. Mais les vraies dépressions se guérissent. Ce qu'on ne guérit pas, c'est les personnalités qu'on appelle pathologiques. Les gens qui sont malheureux depuis toujours, les gens qui viennent me voir en me disant « je suis triste depuis que je suis né », je leur dis que voilà, les miracles, c'est peut-être Jung qu'en faisait, mais moi j'en fais un peu moins, dans mes consultations. Mais quand quelqu'un brutalement s'effondre avec ces signes qu'on a dit, perte d'envie, perte d'énergie, on les traite, on les guérit, à la condition qu'on les reconnaisse, qu'on ne fasse pas une sorte de thérapie de comptoir, de tape sur l'épaule, allez, vas-y, prends sur toi, ça ira mieux. On ne le fait pas pour les diabétiques, on ne le fait pas pour les hypertendus. Donc c'est vraiment, et c'est un enjeu majeur en France que de reconnaissance des maladies dépressives. Vous savez, on est dans un pays où on a le plus grand nombre de consommations de boîtes d'antidépresseurs par habitant, ce qui est scandaleux parce qu'on prend des antidépresseurs pour des émotions négatives. Mais on a aussi le plus grand nombre de vrais déprimés non traités.
Ah oui.
On a un double mauvais record. Donc si on peut déjà baisser ce record-là et reconnaître les maladies dépressives et les traiter, on va faire un vrai progrès en termes de santé des populations.
Est-ce que c'est vrai que les femmes sont plus touchées que les hommes par cette maladie-là, la vraie dépression encore
Absolument.
Une fois
Absolument. Nous n'avons pas les mêmes maladies mentales entre les hommes et les femmes. les hommes boivent plus quand ils vont mal, jouent plus, les femmes vont avoir plus tendance à avoir ce qu'on appelle des maladies de l'émotion, qui sont les troubles anxieux et les troubles dépressifs, dont le ratio est très clairement supérieur, chez les femmes. Mais regardez la toxicomanie, on est meilleur chez les hommes. Donc vraiment, l'un dans l'autre...
Vous êtes meilleur, vous êtes plus atteint.
Il y en
atteint.
A pour tout le monde.
On est plus atteint, on est beaucoup plus atteint sur alcool, sur toxicomanie. Donc la pathologie mentale en fréquence est à peu près comparable. Pour des raisons probablement biologiques et peut-être environnementales, elle va s'exprimer différemment chez l'homme et chez la femme.
Professeur Le Joyeux, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes. On va revenir avec vous sur notre sujet du jour, la dépression, ou plutôt la déprime saisonnière, qui est tout de même moins grave que tout ce que l'on vient de décrire à l'instant. Comment repérer ce spleen hivernal et comment le contrer, surtout pour retrouver la pêche et notre entrain habituel, Mélanie. Mais quand il fait nuit à 17h et que tout nous pousse à hiberner oui. sous la couette, c'est vrai que c'est pas simple. Restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, 11h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en train d'apprendre à repousser cette plaie classique au mois de novembre, la déprime saisonnière. On fait cela avec le professeur Michel Le Joyeux. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez J.C. Lattès. Alors, on va voir toutes les solutions pour lutter contre ce spleen saisonnier. Et le premier conseil que vous donnez, c'est faites du sport. Non mais sérieusement, ça peut nous aider à aller mieux, bouger pour garder le moral, ça s'est prouvé?
Bien sûr. Vous savez, il y a une étude qui est sortie cette semaine qui montre que les antidépresseurs agissent beaucoup mieux et toutes les thérapies de la dépression agissent beaucoup mieux dès qu'on bouge. Quand on bouge, alors là pour le coup vous me parliez d'un rationnel biologique, on a un effet, on va augmenter ses endorphines, vous en apercevez d'ailleurs. Quand vous avez bougé, vous avez moins mal, vous avez un peu des contractures, mais l'endroit où vous aviez mal, vous avez moins mal. Et on augmente un facteur considérable qui est le facteur de croissance des neurones. On prévient l'Alzheimer, on entretient sa mémoire.
Alors, on devient plus intelligent en bougeant ?
Déjà, en tout cas, on oublie moins.
D'accord.
On oublie moins. Mais vous savez, plutôt que de faire des mots croisés terribles ou d'entraîner son cerveau en étant assis à sa table tout l'hiver, on sort, on bouge. Il y a une étude munichoise formidable qui vient de montrer que quand on marche 10 minutes dans le froid, hein, nos copains munichois le savent.
Ils ont l'habitude.
Pendant 10 minutes, on va augmenter de 30% son rythme cardiaque et en même temps, on augmente de 30% son niveau de bien-être. 10 minutes, on les fait marcher 10 minutes.
C'est pas grand-chose en plus, 10 minutes, hein, c'est faisable.
C'est pas grand-chose. Ouais. Donc vous voyez, ce qu'on attend, c'est pas le marathon, c'est pas l'épuisement chaque jour, c'est même pas la performance. Nos collègues cardiologues disent qu'il faut muscler son cœur. Pour muscler ses émotions, il faut juste ne pas être sédentaire. Il faut résister à cette tendance que nous donne la météo.
Et on a le droit de mettre un manteau quand même, hein, marcher.
On a le droit de mettre un manteau, absolument. On a le droit de mettre un manteau. On a le droit aussi de mettre des chaussures de marche. On est programmé pour se dire, au printemps, je commence à bouger. En hiver, j'arrête de bouger. Et peut-être qu'une des choses qui nous déprime le plus, c'est cette sédentarité un peu conventionnelle qui nous paraît obligatoire l'hiver. Alors, c'est moins naturel. Il y a moins de tentation de marcher au soleil. Mais il va falloir chercher toutes les occasions. On a même vu que quand vous marchez à l'extérieur, vous allez voir du bleu. Là, on a un peu de bleu dans le studio.
Ouais, hein, non, c'est bien. On triche un peu. Tout est bleu.
Du vert. Et que ces effets des couleurs, ces effets de l'air, donc les quelques moments d'ensoleillement ou les quelques moments de lumière, il va falloir en profiter. Bien sûr qu'il y a des techniques de luminothérapie, mais on a à notre portée cette capacité à s'immerger dans la lumière au moins 10 minutes par jour. Donc on sort de cette idée, l'hiver, je me cocoon, je reste sur moi. L'hiver, je continue à bouger de manière raisonnable.
Alors, autre technique contre le spleen que vous prodiguez, c'est opter pour le changement. Je veux dire, par exemple, refaites votre décoration dans votre salon. Julie, elle adore hein, tout ça. Ranger, changer les meubles de place, tout ça. Et d'ailleurs, elle est tout le temps de bonne humeur. Je ne sais pas si c'est lié à cette manie de ranger, de tout changer de place. Mais comment ce changement agit sur notre cerveau?
Alors, il y a une recherche très étonnante qui a étudié avec la personnalité les gens qui ont plutôt tendance à changer, à bouger, et ceux qui sont dans la routine. Et on s'est aperçu que ceux qui ont ce qu'on appelle un niveau élevé de recherche de nouveautés, de recherche de changement, vont plutôt mieux. résiste notamment plus. On s'en est aperçu pendant la pandémie. Vous voyez, qu'est-ce qui n'a pas changé quand on s'est retrouvé du jour au lendemain confiné? Donc, ceux qui toléraient le changement étaient plus équipés. Alors, soit vous êtes, comme Julie, formidable, c'est-à-dire vous êtes une changeuse, si j'ose dire, naturelle, soit sinon, il va falloir faire appel à son imagination. C'est ce que je propose dans le bouquin, chercher quelques petites expériences de changement.
Ça pourrait être quoi ?
Je vous fais un défi pour demain.
Ah oui, allez-y.
Une couleur de pull que vous n'oseriez pas porter à Europe 1.
Ah, pas mal. Moi, j'ai un vieux rose dégueu. Je vais le mettre.
Demain ?
Ouais, demain, je le mets.
Donc, vos auditeurs, je verrai. Hein,
je suis pas fan du rose non plus. Alors, on vient en rose demain.
Ouais, demain, on vient en rose. Okay.
Donc, ça, vous voyez, et vous allez vous regarder quand même différemment. Vous allez vous regarder bizarrement. Vous allez dire vraiment.
C'est très confortable. On n'aime pas être avec un truc qu'on n'aime pas.
On n'a vu plus des psys qui nous donnent des idées. L'autre chose, par exemple, dans ces petites expériences de sortie de sa zone de confiance, on va adresser la parole à quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps. On reprend, moi je le fais, c'est un exercice que je propose en consultation. On regarde le répertoire de son téléphone et on voit celles et ceux qu'on aime bien.
Au pif, comme ça.
Non, ceux qu'on aime bien quand même.
Qu'on aime bien, évidemment. Et qu'on n'a jamais appelé. On va avoir besoin de renouvellement.
Julia, c'est qui ? Vous êtes tombée sur qui ?
J'en ai beaucoup.
Non mais oui. on va aussi essayer avec des aliments. On a aussi un peu tendance à manger de manière routinière. Vous savez, cette idée qu'il y a des aliments qui sont bons pour la santé, c'est vrai. Mais quand tous les jours, on prend le même plat, on finit par rentrer dans une routine.
C'est vrai que je fais les mêmes courses toutes les semaines,
fou.
Je crois.
Après, c'est pas valable pour le couple, ça. On ne change pas de...
Non, je ne vais pas vous proposer ça pour le couple. Vous allez commencer par le plat, hein, si vous voulez bien. On ne va pas être à l'origine de grands drames. Donc, vous gardez le couple comme il est.
Mais on change de pull et on change d'aliment.
Vous changez de pull, vous changez d'aliment. On va peut-être changer aussi de comportement, puisque vous me parlez du couple. Mm-hmm. En général, dans un couple normal, on se fait des reproches, on râle un peu.
Oui.
Hein, je lis dans vos pensées, Julien.
Hein, oui, non, mais ça peut m'arriver, effectivement, mais voilà. Pas toujours.
Oui, mais quand les chaussettes traînent tous les jours à côté de la corbeille, voilà. D'un moment, on peut en avoir marre.
On va faire quelque chose qu'on n'a quasiment jamais fait dans son couple.
Dites-moi.
On va chercher un motif de gratitude.
Ah oui.
On va écrire une petite lettre de gratitude avec trois raisons de dire merci à celui ou celle qui partage sa vie. Les trois raisons essentielles. Et vous voyez, du coup, on change un peu son mode de communication. Les psys américains dont on s'inspire pour faire ça vous proposent de le mettre un peu en scène. Vous écrivez votre lettre de gratitude avec une belle plume, vous l'enroulez et vous l'offrez au dîner. Et tout d'un coup...
Tu vas pas comprendre votre mari, ce soir.
Je pense qu'il va halluciner.
Alors, il va vous voir en rose, apportant une lettre de gratitude. Vous dites, c'est rien, on a invité un psychiatre à Europe 1. Donc, vous voyez, au fond, tous ces petits changements ou de communication ou d'habitude ou de repas vont au fond
doper notre humeur quand même.
Doper notre humeur et ouvrir un peu des fenêtres dans un temps qui est plutôt gris. Donc la nouveauté qu'on n'a pas tellement dans le renouvellement de la nature, on va pouvoir l'avoir dans sa manière de penser ou de se comporter.
Alors dans votre livre, professeur, Les quatre temps de la Renaissance aux éditions J.C. Lattès, vous conseillez aussi pour lutter contre ce spleen hivernal, de rêver. La rêverie volontaire avec 10 minutes d'esprit vide par jour. Comment on s'y prend concrètement? On ne fera pas ça tout de suite avec Julien, on fera après l'émission parce qu'on ne va pas partir pendant 10 minutes.
Vous voulez qu'on fasse 10 minutes de silence? Là, ça va être vous le faites souvent, ça, dans votre émission.
Oui, bien sûr, mais si on se tait trop, il y a un disque automatique qui part, donc on ne va pas se taire trop longtemps.
C'est parti d'une expérience très intéressante où on s'est aperçu que les rêveurs, ceux qui font ce qu'on appelle du mind wandering, du vagabondage de l'esprit, sont globalement plus résistants. Résistants à l'hiver, résistants à tout ce qui est imprévisible. Donc, soit vous êtes naturellement rêveuse ou rêveur, de toute façon, vous allez les avoir, vos 10 minutes de décrochage. Mais vous avez vu que ce n'est pas du tout à la mode. Aujourd'hui, on met sous Ritaline tous ceux dont on pense qu'ils ont des troubles de l'attention. Donc, oui. Alors que moi, ce que je propose, c'est l'exercice inverse. Ce défaut qui est d'être un peu rêveur, d'être inattentif, on va le cultiver une fois par jour. On va se déconnecter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va se servir éventuellement d'une musique bien planante, d'un texte. Hein. On peut se faire sa petite valise à déconnexion avec son texte qui nous fait rêver aussi. Et on sait que ces 10 minutes de mind wandering vont d'abord nous révéler nos vraies pensées. Parce que dès qu'on se déconnecte, ce qui apparaît, ce qui émerge, ce n'est pas des préoccupations matérielles, c'est les choses qui nous concernent vraiment. Et on va en sortir tout à fait régénéré. Donc, vous voyez, plutôt que d'essayer de se contraindre tout le temps, vous parliez de développement personnel. Je suis personnellement assez contre le développement personnel au sens de « je vais contre ma nature, j'organise mon emploi du temps ». Moi, je propose plutôt des petites effractions de comportement et des petites défense de ce qui est considéré comme les défauts. Vous voyez, un peu d'impulsivité, un peu de rêverie. Ces moments-là sont au fond des moments qui nous font du bien.
On est d'accord que si on fait une petite dépression saisonnière, il n'y a pas besoin de médicaments. Vous parlez de Ritaline, tout ça, mais on ne prend pas de médoc.
Il n'y a rien entre la maladie et l'émotion. La maladie, ça se traite avec les médicaments. L'émotion, ça se respecte et ce n'est en aucun cas une maladie. C'est comme les antibiotiques, hein. Mes copains infectiologues le disent.
C'est pas automatique.
Voilà, vous l'avez appris. Il faudrait qu'on apprenne la même chose. Les antidépresseurs, c'est pas automatique.
Eh bien, merci beaucoup, professeur Lejoyeux, d'avoir répondu à nos questions. Et pour ceux et celles qui voudraient en savoir davantage, pour encore plus de conseils hein, pour retrouver le moral, je rappelle votre livre « Les quatre temps de la Renaissance » publié chez J.C. Lattès. Merci encore.
Merci à vous.